Radio Primitive.
La radio libre et associative.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, ce soir, on va consacrer la majeure partie de notre émission à ce qui s'est passé à Paris en 2013, mais surtout en décembre 2022, l'assassinat de 2x3, on peut dire, militantes et militants kurdes. Alors, il y a eu une émission qui est passée sur l'actualité des luttes le 5 janvier. On va en reprendre une demi-heure environ. Il y aura une présentation, il y aura le début de la conférence au Centre démocratique kurde de France. Il y aura un avocat qui parlera, il y aura une femme ensuite qui parlera. Et ensuite, ça se terminera par la présentation des deux autres morts, puisque la majeure partie de ce début d'émission sera consacrée justement à la femme qui était tuée et qui certainement était là-bas. C'est-à-dire qu'il fallait trouver... c'est un truc bizarre, quoi. Il y avait une réunion importante au niveau des femmes kurdes. Et cette réunion a été décalée d'une heure, heureusement. C'est ainsi que le tueur est arrivé une heure trop tôt. Bon, pour lui, évidemment.
On aura l'occasion de revenir là-dessus, oui. dans la seconde partie, puis d'expliciter un petit peu ce qui s'est passé samedi, puis d'une manière générale... ce qui se passe en France et puis pourquoi ce samedi-là était très important puisque il y avait la jonction des deux, à la fois ce triste anniversaire, cette commémoration de l'assassinat.
De toute façon, cette manif qui a eu lieu le 7 janvier avec énormément de Kurdes qui venaient de toute l'Europe, faut-il le rappeler, était prévue depuis longtemps.
Mm-hmm. Hein. Oui, il y a des rendez-vous tous les ans, et puis là, c'était un rendez-vous en particulier, mais qui a, on va dire, percuté l'actualité, puisque, sauf si vous habitez dans une cave, vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a eu de nouveau trois assassinats, comme tu nous l'as rappelé, mais de toute façon, tout est largement, clairement expliqué dans le son qu'on va entendre, et puis on reviendra après là-dessus.
Le centre culturel kurde a une nouvelle fois été visé. Trois personnes ont été blessées et trois autres tuées, deux hommes et une femme. Emin Kera, responsable du mouvement des femmes kurdes en France, Mir Perver, chanteur kurde, et Abdulrahman Kizil, un habitué du centre. Pas vraiment des passants pris au hasard.
Dans cette émission, en recoupant les éléments notamment mis à jour dans les articles de l'Humanité et de Libération et la conférence de presse du 23 décembre organisée par le Conseil démocratique kurde, nous vous proposons de revenir sur les événements qui ont endeuillé la communauté kurde de France, forte de 350 000 membres.
Selon le gouvernement français, un loup solitaire, déséquilibré, pris d'une impulsion raciste, aurait pris son arme et tiré au hasard. Yekbun Eksen, le porte-parole du Conseil démocratique kurde de France, CDKF, n'y croit pas. Le peuple kurde, en 40 ans de lutte de libération nationale, sait qu'il n'y a jamais de coïncidence. Pour nous, ce n'est pas anodin que ces assassinats se soient produits dans ce lieu qui fait office d'ambassade du plus grand peuple sans État.
Difficile de croire à la thèse officielle d'un tireur isolé. Le tireur était récemment sorti de prison et a très bien pu être instrumentalisé par les pro-Erdogan, président d'extrême droite de Turquie.
Dans cette affaire, tout est trop gros. L'homme arrêté, William M., 69 ans, ancien conducteur de train, est connu de la justice pour deux tentatives d'homicide commises en 2016 et décembre 2021. Un des faits visés concerne l'attaque raciste d'un camp de migrants en décembre 2021. Il avait été mis en examen pour violence avec arme, avec préméditation, à caractère raciste, ainsi que pour des dégradations. Il avait ensuite été placé en détention provisoire avant d'être remis en liberté le 12 décembre dernier. Malgré ces faits extrêmement graves et en récidive, il a été libéré au bout d'un an et n'est pas connu des renseignements territoriaux et de la Direction générale de la sécurité intérieure, ni fiché comme étant quelqu'un d'ultra-droite.
Selon les informations recueillies par l'Humanité, l'homme aurait été déposé par une voiture devant le Conseil démocratique kurde de France, alors que devait se tenir une réunion d'une soixantaine de femmes kurdes, finalement décalée d'une heure au dernier moment. Un massacre a été évité. Qui aurait renseigné le tueur ?
Pourquoi le suspect avait-il une arme, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de port d'armes ? Pourquoi cibler les Kurdes alors qu'ils sont connus pour avoir lutté contre les islamistes radicaux de Daesh ? Qui lui a fourni cette arme si près de sa libération de prison ?
Selon Agit Polat, porte-parole du CDKF, il est inadmissible que dans cette affaire le caractère terroriste ne soit pas retenu et qu'on essaie de nous faire croire qu'il s'agit d'un simple militant d'extrême droite, un récidiviste tout juste sorti de prison le 12 décembre. Il y a à peine 20 jours de cela, lors d'un échange avec les services de renseignement français, j'ai moi-même fait part personnellement de mes craintes concernant notre sécurité. J'ai souligné la nécessité d'augmenter la sécurité au sein et autour de notre association. Le centre kurde n'était pas protégé par la police.
Vous allez maintenant écouter des extraits de la conférence de presse du Conseil démocratique kurde de France qui s'est tenue le 23 décembre dans leurs locaux.
Mesdames et messieurs les journalistes, bonsoir. Merci de votre très forte présence. Comme vous le savez tous aujourd'hui, encore une fois, en plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement, la communauté kurde a été frappée par un attentat terroriste, de caractère terroriste, en ce qui concerne notre définition de cette attaque. Encore une fois, malheureusement, la communauté kurde a été meurtrie en France, à Paris, et encore une fois dans ce même 10e arrondissement. Nous étions, depuis quelque temps, en train de préparer le 10e anniversaire des triples assassinats des militants kurdes qui qui ont été exécutés à Paris le 9 janvier 2013. Et de ce fait, encore une fois, nous avons été frappés ici. La situation politique en Turquie, les évolutions politiques concernant le mouvement kurde, concernant la communauté kurde, le peuple kurde, nous laissent très clairement penser que ce sont des assassinats encore une fois politiques. Par le biais de la presse, nous avons appris aujourd'hui que le caractère terroriste dans le cadre de la procédure n'avait à ce stade pas été retenu. Nous sommes actuellement indignés face à cette situation. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette affaire, le caractère terroriste ne soit pas retenu et qu'on essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un simple militant d'extrême droite qui vient, un récidiviste qui vient tout juste de sortir de prison le 12 décembre et vient commettre cet horrible attentat dans nos locaux du Conseil démocratique kurde en France, dans le siège de cette fédération qui rassemble des dizaines d'associations kurdes de toute la France. C'est pourquoi nous faisons encore une fois appel aux autorités françaises. Arrêtez votre coopération avec les services de renseignement turcs. Arrêtez votre complaisance face à l'impunité. Arrêtez votre complaisance avec les autorités turques quand il s'agit de la sécurité des Kurdes, des militants kurdes. L'une des victimes aujourd'hui assassinées était l'une des responsables du mouvement des femmes kurdes en France. C'est pourquoi il y a un caractère politique. C'est pourquoi il y a un caractère terroriste. Que personne n'essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un simple attentat orchestré par l'extrême droite. Je suis obligé de faire ce constat. Jusqu'ici, depuis plusieurs décennies, la communauté kurde n'a jamais été prise pour cible par l'extrême droite. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, particulièrement à la veille du 10e anniversaire de ces assassinats, que l'extrême droite ait commencé à s'en prendre à la communauté kurde au cœur de notre organisation, de notre institution? Selon notre première constatation, il se peut éventuellement que cette personne ait été retournée en prison par des membres djihadistes, par des membres de services de renseignement turcs en prison. Il n'est pas normal, il est incompréhensible qu'une telle personne s'en prenne de cette façon-là, à seulement 10 jours après sa libération, à la communauté kurde en plein cœur de Paris. Et encore une fois, à la veille du 10e anniversaire du triple assassinat des militants kurdes. Nous attendons des autorités françaises que la lumière soit faite, et toute la lumière soit faite sur cette affaire. Nous avons un souvenir horrible qui dure aujourd'hui, depuis maintenant 10 ans, concernant le 9 janvier 2013. Jusqu'ici, les autorités françaises n'ont pas reçu une seule fois les familles des victimes du triple assassinat de 2013. Jusqu'ici, les autorités françaises ne nous ont pas reçus, nous, en tant que CDKF, en tant qu'organisation kurde, concernant ces assassinats. Jusqu'ici, les services de renseignement français n'ont pas assuré notre sécurité. Il y a tout juste 20 jours de ça, lors d'un échange avec les services de renseignement français, j'ai fait moi-même, personnellement, fait part de mes craintes concernant notre sécurité. Il y a tout juste 20 jours de ça, j'ai souligné la nécessité d'augmenter la sécurité au sein et autour de notre association. Comment se fait-il encore une fois que malgré nos alertes, que malgré ces cris de détresse, que malgré cette tentative d'essayer de faire entendre au gouvernement notre voix, comment se fait-il encore une fois qu'on soit meurtri ici, qu'on soit assassiné de nouveau, encore une fois sous la responsabilité des autorités françaises? L'une des personnes assassinées aujourd'hui avait entamé une procédure de demande d'asile auprès de l'État français. Pourquoi est-ce que cette personne s'est vue refuser, malgré que les autorités françaises savaient que c'était une militante française? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette femme n'a pas été protégée? Pourquoi est-ce que ces deux autres membres de notre association, activement de notre association, n'ont pas été protégés? Pourquoi est-ce que ces 6 autres personnes aujourd'hui sont dans cette situation? Excusez-moi, ces 3 autres personnes. Donc, il y a des questions et il y a des points d'interrogation qui demeurent toujours. Les autorités françaises doivent nous recevoir. Les autorités françaises doivent arrêter ce jeu cynique. Le 9 janvier, les assassinats ont survenu. Le 20 janvier, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, est allé rencontrer l'ambassadeur turc de l'époque. Nous avons les échanges. Nous avons reçu la note d'échange qui a eu lieu. Manuel Valls disait qu'ils allaient continuer à 11 jours après les assassinats des militants kurdes en France, qu'ils allaient continuer leur coopération pour lutter contre le PKK. Qui est terroriste alors dans cet État? Qui est-ce qui a agi en tant que terroriste ici dans ce pays? Est-ce que c'est le PKK? Est-ce que c'est le mouvement kurde? Est-ce que c'est la communauté kurde qui a dégradé, qui a tué? Est-ce que c'est nous? Ou bien est-ce que ce sont les services de renseignement français avec lesquels les autorités françaises coopèrent et ne lèvent pas depuis 10 ans le secret défense pour faire toute la lumière dans cette affaire? Qu'est-ce que la France a à se reprocher quand il s'agit de la levée de ce secret défense? Pourquoi est-ce que la France ne lève pas aujourd'hui le secret défense depuis 10 ans maintenant? Si le PKK n'aurait pas été sur la liste des organisations terroristes, aujourd'hui, ni le 9 janvier, ni aujourd'hui encore une fois, ces assassinats n'auraient pas survenu. Nous ne sommes pas stupides, nous ne sommes pas dupes. Nous savons de quoi il s'agit, nous savons très bien qui a orchestré ces assassinats. Nous savons que Erdogan et l'État turc sont derrière encore une fois ces assassinats. Que les autorités françaises n'attendent pas de nous de croire à leur version. Ils vont faire toute la lumière et ils sont obligés de faire toute la lumière concernant cette affaire. Et comme concernant les affaires du 9 janvier. Nous sommes en colère parce que nous avons alerté à de multiples reprises et la dernière fois c'était tout juste il y a 20 jours de ça. Nous sommes en colère parce que nous n'avons pas été entendus. Nous sommes en colère parce que nous nous faisons constamment arrêter, nous nous faisons constamment réprimer par les autorités françaises. Qu'avons-nous fait aux autorités françaises? N'étions pas nous qui avons combattu contre Daesh pour sécuriser aussi à la fois la sécurité et la stabilité de ce pays, de la France? Rappelez-vous de 2014, de 2015. Tout le monde applaudissait le peuple kurde. Tout le monde applaudissait les combattants kurdes. Tout le monde parlait du courage des femmes kurdes qui ont lutté contre Daesh. Les autorités françaises le savent très bien qui a lutté là-bas au Rojava, en Syrie, au Kurdistan irakien contre Daesh. Les autorités françaises et les autorités militaires le savent très bien qui sont ces guerriers, qui sont ces combattants qui luttent contre Daesh. Donc on est arrivé à un stade où il faut arrêter de faire le dupe, où il faut arrêter de jouer aux trois singes. Nous n'acceptons plus cette politique d'État de la France. Nous n'acceptons plus cette politique qui divise le peuple kurde. Je lance solennellement un appel au président de la République. Il y a besoin d'une volonté politique nette, claire, précise de la part de la France. Ne pas laisser la question kurde en tant qu'otage de la diplomatie française. Ne sacrifiez pas cette cause. Il s'agit du destin d'un tout un peuple, de 50 millions de Kurdes. De 50 millions de Kurdes. On parle du destin de 50 millions de Kurdes. Vous ne pouvez pas laisser ce dossier à la merci de la diplomatie française. Vous ne pouvez pas marchander sur le dos du peuple kurde de cette façon-là. Arrêtez-vous. Stop. On en a marre de cette politique. Il y a besoin que la France développe, élabore une politique propre, une politique kurde, une politique inclusive. Il faut que la France fasse appel pour la paix. Il faut que la France contribue pour la résolution de la question kurde. C'est ainsi que je lance mon appel au président de la République. Il y a besoin d'une volonté politique. Il y a besoin d'une volonté politique. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai à dire. La communauté kurde est endeuillée. Et jusqu'à ce que ce crime ne sera pas élucidé encore une fois, notre deuil se poursuivra. Jusqu'à ce que la lumière ne sera pas faite concernant cette affaire, nous continuerons notre quête de justice comme nous la continuerons pour le 9 janvier. Notre colère va être dans les rues de Paris. Il faut que les autorités françaises nous écoutent. Il faut que les autorités françaises ne retombent pas dans la même erreur qu'elle est tombée le 9 janvier 2013. Il s'agit très clairement, très nettement d'un attentat terroriste. Il s'agit très clairement, très nettement d'un attentat politique. Il s'agit très clairement, très nettement d'un féminicide aussi à la fois. C'est pourquoi nous allons continuer notre combat. Nous n'avons pas peur que l'État turc, que Erdogan, que les commanditaires le sachent très bien. Nous n'avons pas peur. Nous allons continuer notre combat. Nous allons continuer pour la liberté, pour la démocratie, pour les droits humains. Nous allons continuer ce combat pour la liberté universelle. C'est pourquoi nous n'avons pas peur et nous allons poursuivre jusqu'au dernier qui restera. Je vais laisser la parole à notre avocat, Maître Andic, qui va aussi faire un point juridique sur la situation.
Oui, bonjour, je suis l'avocat du CDKF, David Andic, avocat au barreau de Paris. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, beaucoup de colère aussi, on a pu le voir. Trois femmes ont été assassinées il y a moins de 10 ans. Aujourd'hui, trois militants de la liberté ont été assassinés, trois blessés. Nous ne connaissons pas encore leur sort, le sort qui leur est réservé. Désolé, je parle, je suis un peu ému parce que je fais partie des premiers, avec Agit Polat, à m'être rendu sur la scène de crime où ce massacre a eu lieu. On parle d'assassinat, je rejoins les propos d'Agit Polat, on parle d'assassinat et non pas d'attentat terroriste. C'est assez étrange, vous savez, je parle en ma qualité d'avocat, je défends des personnes, des militants de la liberté kurde qui, pour avoir manifesté, pour avoir parfois dégradé des biens, sont poursuivis en France avec la qualification terroriste. On parle de jets de pierre, de jets d'autres choses, et ces personnes-là sont poursuivies pour terrorisme. Aujourd'hui, on nous parle d'assassinat. On n'a pas vraiment mis les mots et on refuse de retenir la qualification terroriste. Ça, ça suscite de la colère. Ça suscite beaucoup d'incompréhension. Il y a 10 ans, moins de 10 ans, trois femmes ont été assassinées. Depuis 10 ans, il y a un déni de justice. C'est ça la réalité que vit la communauté franco-kurde de France. Un déni de justice permanent en Turquie et maintenant, elle commence à le ressentir en France. On parle de personnes, monsieur Agit Polat disait tout à l'heure que la plupart, ou certains en tout cas, étaient réfugiés politiques. Ces personnes ont quitté des pays en guerre, pour ceux qui viennent de Nord-Syrie, du Rojava, le Kurdistan syrien, d'autres, la Turquie, pour fuir des persécutions politiques. Je les défends également dans le cadre de mon travail. Et ces personnes-là viennent en France chercher refuge. Elles fuient la mort, elles fuient les persécutions de ces États pour trouver refuge. Et finalement, ce qu'elles ont trouvé, ces personnes, ce n'est pas refuge, c'est la mort. Voilà le message qu'on envoie. La communauté kurde, aujourd'hui, a peur. Elle était déjà traumatisée par ce triple assassinat qui est intervenu il y a moins de 10 ans à quelques rues d'ici. À quelques rues d'ici, oui. Et aujourd'hui, énième atrocité commise contre le peuple kurde, non pas en Iran, non pas en Irak, non pas en Syrie, non pas en Turquie, mais en France. La communauté franco-kurde est aujourd'hui en colère et elle a peur. Elle a peur, elle a besoin de réponses, elle a besoin de justice et surtout, elle a besoin de considération. Parce qu'en effet, quand on refuse d'accueillir les familles des trois femmes assassinées, quand on refuse l'accès au dossier également, une grande partie du dossier, au nom du secret défense, quand depuis ce matin, 11h, les coprésidents du CDKF, les représentants du CDKF, moi-même avocat du CDKF, nous essayons en vain de joindre les services compétents pour avoir de l'information, et qu'on ne nous répond pas, que l'on doit attendre les dépêches des journalistes pour avoir un semblant de réponse, eh bien oui, à ce moment-là, on peut être en colère. On peut être en colère et on peut se sentir au moins déconsidéré, si ce n'est sous-évalué, je ne sais pas, est-ce que les franco-kurdes sont des citoyens de seconde zone en France? Voilà ce que j'entends tout à l'heure. Pourquoi n'y a-t-il pas d'escorte policière pour qu'il y ait devant les centres démocratiques kurdes de France? Trois assassinats ont lieu et depuis, aucune surveillance policière. Les Kurdes sont livrés à eux-mêmes et on les assassine, pour certains, derrière moi en toute impunité. Voilà ce qui se dit.
Moi, je voudrais dire quelques mots brièvement, parce que je pense que ça a été longuement dit. Mais encore une fois, ici, ce sont les Kurdes, les femmes libres. Les femmes libres, celles qui ont combattu et qui combattent toujours contre l'obscurantisme, qui ont été visées. Vous, les journalistes, vous êtes tous dans la rue. Quand on lance le slogan « Femme, vie, liberté », sachez que une des personnes qui a été tuée est à l'origine de la formation de ce slogan. Elle a donné toute sa vie pour que ce slogan « Femme, vie, liberté » voit le jour. Ce slogan qui est aussi une philosophie de vie. De ce fait, on ne peut pas ne pas qualifier cette attaque comme une attaque terroriste, tout en sachant que l'heure qui a été choisie pour les attaques n'est pas anodin. Il y avait une réunion des femmes kurdes, justement. À l'heure de l'attaque, il y avait une réunion des femmes kurdes pour justement préparer les actions du 9 janvier, du 7-9 janvier, pour l'assassinat des trois femmes kurdes en 2013. Et à cause des grèves et des trains qui étaient en retard, cette réunion a été reportée d'une heure. Dans notre malheur, nous avons la chance que cette réunion a été reportée d'une heure, sinon ce n'était pas trois personnes dans le centre culturel kurde, mais c'était plusieurs dizaines de femmes qui auraient été assassinées. Des femmes libres, des femmes qui essayent, ici en France, de faire valoir cette philosophie de la liberté des femmes. Il faut aussi, on a un petit message, je pense que M. Pollat et l'avocat a parlé suffisamment, nous avons un message pour les Français. Sachez que la Turquie n'est en aucun cas un allié pour la France, pour les intérêts de la France, pour la diplomatie française. Par contre, les Kurdes, qui sont un peuple laïque, qui défendent une politique multiethnique, paritaire, écologique, sont le seul à pouvoir promouvoir une paix au Moyen-Orient, et qui dit la paix au Moyen-Orient, dit la stabilité en Occident. Et une dernière chose, depuis ce matin, 11h, les Kurdes n'ont pas accès à leur centre. On comprend, il y a eu des assassinats à l'intérieur. Les Kurdes n'ont pas accès à leur rue. Monsieur le ministre Darmanin vient faire une déclaration. Les journalistes sont invités à aller le rejoindre, mais pas les responsables du Conseil démocratique kurde. À qui voulez-vous faire une déclaration? À la presse? Vous pouviez le faire dans votre bureau ou vous pouviez le faire ailleurs. Vous venez devant le centre démocratique kurde, il est de votre devoir, en tant que responsable français, en tant que ministre, de vous adresser aux responsables du centre démocratique kurde, ce centre qui a été visé et qui a été à l'origine de cette attaque terroriste. Donc, encore une fois, nous rappelons aux autorités françaises qu'il est temps que non seulement le secret de défense sur le dossier de l'assassinat de Sakine Jansı Svidandoğan, Leyla Şahinler soit levé, mais que toute la lumière soit faite sur cette attaque terroriste qui a été commise, je ne sais pas trop, par une personne qui serait raciste ou qui serait suprématiste. C'est quand même bizarre que dans la rue d'Anguin, il y a des dizaines d'ethnicités différentes. Il y a des Africains, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des Libyens. Mais comme par hasard, il rentre dans le centre kurde, comme par hasard, il rentre dans le restaurant kurde, et comme par hasard, il marche 150 mètres pour venir s'attaquer à un salon de coiffure kurde. Et encore une fois, ce sont les Kurdes qui l'ont attrapé comme ils avaient attrapé Ömer Güney, l'assassin des trois militants kurdes. Donc maintenant, la justice est un droit, est une dette envers le peuple kurde, envers le Conseil démocratique kurde, et la France et toutes ses instances doit se mettre au travail sans attente pour que la justice nous soit rendue et que ceux qui sont derrière cet assassinat, cette attaque terroriste d'aujourd'hui, mais aussi ceux qui sont derrière les assassinats de 2013, soient traduits devant la justice pour pas que n'importe qui, les services secrets étrangers, viennent faire la chasse sur les territoires français, ce qui est une honte aussi pour la France.
L'une d'entre elles était un artiste kurde exilé aussi, réfugié politique, qui était poursuivi en Turquie pour son art, pour avoir chanté en kurde. Donc de ce fait, cette personne résidait sur le territoire national depuis plusieurs années. il était régularisé, il était reconnu en tant que réfugié. Donc les autorités françaises avaient le devoir, encore une fois, d'assurer la protection de cette personne, mais ça ne s'est pas passé comme ça devait l'être. La troisième personne était également une personne fréquentant très régulièrement, même quotidiennement, notre association, un membre actif de notre association, une personne plus âgée, un citoyen kurde ordinaire qui avait l'habitude de fréquenter l'association. La femme n'était pas réfugiée, elle avait fait une demande qui a été rejetée par les autorités. Encore une fois, on voit à quel point les autorités devaient accorder ce statut-là. Bien évidemment, on ne sait pas si le statut lui aurait été accordé. Est-ce que les autorités allaient pouvoir aussi assurer sa sécurité? On l'a bien vu que non.
La communauté kurde avait déjà été visée par les assassinats de trois militantes. Sakin, figure historique du PKK, Laila et Fidan. Déjà, ces assassinats avaient eu lieu au 147 rue Lafayette, siège du centre d'information du Kurdistan. En 2015, le principal suspect, Omer Güney, est renvoyé devant la cour d'assises de Paris sans que les commanditaires soient identifiés par la justice française. Le chef d'accusation à l'époque est participation à la préparation d'une action terroriste à la demande d'individus se trouvant en Turquie et possiblement liés au service de renseignement turc. Omer Güney meurt quelques semaines avant l'ouverture de son procès, qui était prévu en janvier 2017, clôturant l'instruction. De quoi attiser la défiance et la colère des Kurdes vis-à-vis des autorités françaises.
Malgré une volonté manifeste d'enterrer cette affaire, les familles des victimes obtiennent en 2019 l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire visant, cette fois, les complices et commanditaires éventuels. Mais l'enquête continue à se heurter au secret défense. La raison d'État est-elle toujours à l'œuvre face à une Turquie puissante, prompte au chantage migratoire?
Autre coïncidence troublante, et ceci au niveau européen. Selon l'avocat Antoine Comte, trois jours avant ce nouveau meurtre, le 20 décembre 2022, les familles des victimes ont été reçues, les trois victimes de l'année 2013, ont été reçues par les juges d'instruction qui leur ont fait part de l'avancée de l'enquête, relancée récemment après une série d'événements en Europe. Un projet d'attentat contre des dirigeants kurdes à Bruxelles, une condamnation pour espionnage en Allemagne et une tentative d'assassinat en Autriche. À cette occasion, Antoine Comte a décidé de verser à la procédure « Les loups aiment la brume », un livre d'enquête publié en septembre par les journalistes Laure Marchand et Guillaume Perrier qui ont mis à jour un réseau d'agents secrets turcs prêts à tout pour liquider leur opposition kurde ou turque de véritables escadrons de la mort qui circulent en Europe. Yekburn Eksen ne dit pas autre chose. On s'attendait à ce qu'il y ait des problèmes à Paris pour les 10 ans de la commémoration. On sait que des équipes d'assassins sillonnent l'Europe pour tuer des militants kurdes et que ça ne s'est pas arrêté le 9 janvier 2013. La preuve.
Stell dir vor, du wirst als Kurde geboren, frierst auf den Bergen und hast dein Leben verloren. Stell dir vor, dir wird dein Land weggenommen, deine Geschichte verdreht, auf dich hagelt es mit Bomben. Stell dir vor, du wirst von Familie getrennt, in deinem Blut wirst du ertränkt, man nimmt dir dein letztes Hemd. Stell dir vor, du wirst gefoltert, weil du Kurde bist, Dorfkind genannt, weil du auf dem Boden isst. Stell dir vor, du hast kein Dach über dein Kopf, Blut kocht unter Schock und ich bete zu Gott. Und Mama weint, weil der Sohn jetzt im Krieg ist. Wir schwimmen im Blut, weil der Tod in uns verliebt ist. Stell dir vor, sie verbrennen deine Fahne. Du gehst auf die Straße, kriegst einen Schuss für Kobane. Deine Welt strahlt in HD, meine in Schwarz-Weiß. 500 gegen 5000, das ist Kampfgeist.
Je vis en Aken, Herdem, Avi, Wando, Frinin. Welat, Welatem, de Gern, Serok, le Belcha, de Vinin. En, Shaïd, je vis en Aken, Herdem, Avi, Wando, Frinin.
Wir sind eine Bewegung, die zur Geschichte zurückkehrt. JPG, Peshmerga, wir kommen ein Stück näher. Stell dir vor, du bist Kämpfer der Berge. Ehre und Stolz, komm, wir zeigen Härte. Verteidigen das Volk heute zu jeder Stunde. JPG, macht was, stopft eure Munde. Wir sind bereit für unser Volk, unser Blut zu geben. Wir werden die Flagge mit der Sonne immer weiter heben. Wir verzichten auf Brot, kämpfen weiter tagelang. Ramishlo bis nach Afrin, Delemen, Kurdistan, Schwester der Kurden, die verbrannt wurde. Sie verbieten die Sprache und sagen, du bist kein Kurde. Wir haben ein Versprechen, das brechen wir nicht. Zu viel Shahids sind gefallen, deswegen teste uns nicht. Gezeichnet vom Schmerz, in Tränen ertrunken. Doch wie Seruk sagt, man sieht uns niemals unten. Stuttgart, Berlin, Hamburg und die Frankfurter, Jevan in Azad, nimmt niemals die Hand runter. Hannover, Köln, Bremen, bis zum Bielefeld, wir gehen auf die Straße, schreien laut, Kine M, vergesse und vergebe nicht, nehme doch, ich gebe nicht, wollt mich auf den Boden sehen, doch guck ich, erhebe mich, koche innerlich und teile mit euch den Schmerz, Jizire Botan, die Stadt mit Kämpferherz.
هردم نغي واندخين ولات بولات اندقرن
sarokla beni çaldı beni. Ey şehidi hacı bin akın, erdem abi varlı beni. Velat bu velatem yerim, sarokla beni çaldı beni.
Les martyrs ne meurent jamais, ouais. C'était un rappeur kurde qui chante en allemand, évidemment. L'Allemagne, un pays où il y a de très nombreux...
Kurdes.
Très nombreux Kurdes, ouais.
Réfugiés, il n'y a pas qu'en Allemagne, d'ailleurs, il y a aussi en Suisse, il y a aussi en Belgique.
En Suède, également. En Suède, ouais. Et en France, un peu, dans des localités comme Lyon, Marseille, Reims, Paris, Strasbourg, évidemment.
Bah, c'est quand même 330 000 personnes hein, en France.
C'est 330 000 personnes en plus qui sont organisées politiquement, culturellement et socialement, avec évidemment une base familiale qui peut apparaître parfois clanique, mais qui est paradoxalement une des forces du peuple kurde, en lien évidemment avec les différents pays d'origine de cette communauté, mais qui leur permet à la fois d'exister et d'apparaître politiquement, de disposer, comme on l'a pu entendre lors de ce son, de lieux pour pouvoir exprimer leurs revendications, de moyens, de relais et de représentations politiques.
Alors justement, je crois que tu étais à une manifestation ce week-end, samedi.
Ouais, hein, alors avant de revenir sur cette manifestation vite fait, alors évidemment, vous imaginez bien que nous aussi, on partage les très nombreuses interrogations qui sont soulevées par les faits dont on a connaissance, puisqu'on malheureusement, heureusement, on n'est pas de la police, hein, on n'est pas de la justice, on n'est pas des contre-enquêteurs, on peut espérer qu'il y ait encore quelques journalistes dans ce pays et que peut-être quelqu'un pourra réaliser un véritable travail de contre-enquête ou d'enquête indépendante. Ce qu'il faut et ce qu'on peut faire pour éviter de sombrer dans un argumentaire contre argumentaire et quelque chose qui pourrait tendre à l'élaboration de thèses plus ou moins farfelues ou en tous les cas compliquées, parce qu'on n'a pas les éléments, c'est poser la question de manière politique. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple et c'est quelque chose que on est un peu plus en capacité de faire. Alors, la première question, c'est de dire, est-ce que des assassinats politiques, ça arrive en France ? Est-ce que c'est déjà arrivé ?
Bah oui.
Pas qu'un peu. Alors, y a certaines de nos rues hein, qui portent les noms de bien connus. Hein, par exemple, Dulcy September, hein, pour ceux qui s'en rappellent, qui était la représentante de l'ANC, du Congrès National Africain en France, et qui a été assassinée. Alors, on n'a jamais vraiment véritablement su par qui, mais en tous les cas, à l'instigation des services secrets sud-africains. Pour aller encore plus loin, Henri Curiel, qui sont des noms qui sont bien connus, ou encore, pendant la guerre d'Algérie, quelques avocats, dont un avocat algérien, dont le meurtre a été reconnu il y a quelques mois par l'État français. Donc, être un opposant politique à son régime d'origine, de son pays d'origine, se réfugier en France et être assassiné, ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Que cet assassinat soit une commande, soit effectué par les services eux-mêmes ou par des affidés ou par des gens orientés ou manipulés, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait entendable. Donc, ce n'est pas, comment dire, pour je dis cela, c'est pour confirmer que l'hypothèse des Kurdes, elle est largement loin d'être farfelue et elle est tout à fait crédible. La deuxième chose, c'est que à l'intérieur des enjeux entre les différents impérialistes et entre les différentes grandes puissances, ces coups qui sont menés ici ou là à l'intérieur de pays, ils servent aussi dans les relations diplomatiques et les relations, les enjeux de pouvoir. C'est-à-dire que on peut à l'intérieur des pays montrer qu'on possède soit des moyens d'influence, soit des moyens d'action pour pouvoir influencer telle ou telle décision ou se rappeler au bon souvenir des puissances ou de la relation qu'il peut y avoir entre les puissances. Et pour ce faire, la Turquie, qui est un régime qu'on peut qualifier de semi-dictature, hein, clairement, depuis très longtemps, et évidemment tout à fait au point là-dessus, hein, dans à la fois sa volonté expansionniste, mais son aussi sa volonté de jouer un rôle majeur à l'intérieur des relations internationales. On l'a vu depuis quelques années, alors soit à visage découvert, c'est le cas lors de ses interventions en Syrie, mais également en Arménie, en Azerbaïdjan, dans le conflit du Haut-Karabakh. C'est le cas de manière un peu plus discrète, même si elle ne s'en cache pas, dans le conflit et la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, avec la livraison de matériel militaire, notamment des drones, qui lui permet de jouer une partition sur laquelle elle peut, on va dire, sans prendre énormément de risques, déstabiliser ou, en tous les cas, influencer, ou, en tous les cas, montrer sa puissance.
D'ailleurs, la Turquie est tout à fait d'accord avec l'Iran pour bombarder le Kurdistan iranien. Mm-hmm. Hein, ça, c'est connu. Il y a même eu utilisation de ce régime d'Erdogan d'armes chimiques contre les Kurdes. Bon, actuellement, il y a des enquêtes qui sont menées. Il faut espérer qu'elles ne se perdront pas dans les dédales des intérêts, des impérialismes. Mais bon, voilà, quoi, je crois qu'il n'y a pas photo, quoi. C'est un pays, Kurdistan, il suffit de regarder d'ailleurs le nom des partis qui existent en Turquie. Vous tombez de haut quand vous savez que ça fait référence toujours à des valeurs, dirons-nous, d'extrême droite, hein, c'est clair, mm-hmm. La paix, la famille, bien évidemment, la religion. Alors, faut dire aussi que Erdogan, c'est quand même le chef de l'islam en Turquie. Hein. C'est un régime, on parle souvent d'autres pays comme étant des dictatures islamistes, mais en Turquie, on est très proche de ça. Hein. Alors, bien sûr, il y a eu l'histoire de la Turquie avec une certaine laïcité à une époque, mais maintenant, depuis qu'Erdogan a pris le pouvoir, il y a longtemps que ça a été oublié.
Et puis, de toute façon, pardon, la carte qui est jouée par la Turquie, c'est de renvoyer quasiment l'intégralité du peuple kurde et de ses représentations politiques à une qualification de terroriste, aidé en cela évidemment par les institutions internationales qui ont quasiment tous inscrites le PKK sur la liste des organisations terroristes, et donc, on le sait bien, contre le terrorisme, tous les coups et tous les moyens sont permis,
hein. L'Europe, par exemple, reconnaît que le PKK...
Tout à fait, les États-Unis également.
Les États-Unis également. Alors, ce qu'il faut dire, moi, ça me rappelle à Reims, le Conseil démocratique kurde de Reims a eu à une époque un local, et ils ont voulu inviter toutes les personnalités politiques rémoises pour l'inauguration. Bon, le maire de Reims, donc de droite, même si maintenant il est macroniste, mais bon, Et puis le PS. Ouais, il y avait le PS qui était là. C'était sous Hollande, je crois. Ouais, c'était sous Hollande. Et le responsable du PS, qui est encore responsable du PS de Reims, n'a pas voulu y aller parce que il y avait une photo d'Erdogan. Comme quoi,
De Calan.
Comme quoi, il y avait une photo de Calan. C'était donc un terroriste et il a fait tout un speech là-dessus. Sur le PKK, c'est des terroristes. Et c'est le Parti Socialiste. Hein. Bon, c'est
ouais, pas... Ça démontre une, comment dire, une vision, une finesse politique très, 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 très forte. Très d'autant plus que une partie de l'histoire de la résistance kurde s'est faite les armes à la main. Il y a des guérillas, il y a encore de la résistance armée, mais d'un point de vue stricto sensu militaro-politique, est-ce que le PKK a eu recours à des attentats terroristes ou à des modes de combat terroriste? Ça reste encore à démontrer, en tous les cas, au
c'est
sens...
C'est sûr qu'il y a eu des attentats contre les militaires turcs,
oui,
c'est
ou
évident.
Les policiers, oui, bien sûr. Policiers,
ce qui est logique, c'est tout à fait
dans
normal.
Dans un affrontement, hein, voilà, bon, donc, armé, pas à nous de le qualifier. Qu'est-ce qui est terroriste et qui
alors
est
ensuite,
pas
il y a l'évolution du PKK, puisqu'au départ, le PKK était marxiste-léniniste.
Tout à fait, ouais. Hein,
et il a rompu avec le marxiste-léninisme il y a une vingtaine d'années déjà, pour justement être sur des bases intéressantes. Hein. Ils ont basé tout sur un certain confédéralisme démocratique, qui, ils ont pris conscience que finalement, il y avait, là où les Kurdes existent, il y a d'autres peuples qui sont opprimés, et que pour faire quelque chose d'intéressant politiquement, il fallait justement faire en sorte de s'allier avec ces communautés étrangères. Pour étrangères, je ne devrais pas le dire, puisque ce sont des gens, généralement, qui étaient là depuis le début. Bon, et je parle, entre autres, tu dois savoir, les...
Les Azavis, les Yézidis, les Alevis, toutes les différentes...
Ça, c'est pour la Turquie, mais pour l'Iran, il y en a beaucoup d'autres.
Ouais. Hein, il y a aussi des Maronites, il y a des Arméniens, il y a même des Azerbaïdjanais, etc., des Baloutches.
Et puis, il y a des Arabes, des Baloutches. Ouais,
bon, toutes ces... Tous ces groupes ethnoculturels ou groupes linguistiques qui existent à l'intérieur de tout cet ensemble qu'on appelle globalement l'Anatolie, hein, qui sont des myriades et des mosaïques de peuples avec des cultures différentes et parfois des variantes d'une pratique de l'islam qui sont parfois extrêmement étonnantes, hein, parce qu'il y a même des renversements, notamment pour les Alevis, enfin bon, des choses qui sont assez pas complexes, mais en tous les cas très très, comment dire, étranges pour des yeux européens. Et effectivement, il y a une prise en compte de ça dans le projet politique. Et puis le deuxième point, mais je pense que tu allais y venir, c'est évidemment la place centrale de l'émancipation des femmes,
ouais.
Et le rôle moteur que la nouvelle, j'allais dire, doctrine du PKK leur attribue, avec en contrepartie des tentatives, ou en tous les cas des initiatives de lutte contre le patriarcat et le machisme qui est, on va dire, plus que présent, structurellement présent dans la culture kurde et turque, en tous les cas dans cette culture anatolienne, et qui fait que dans toutes les représentations politiques qu'on peut voir des Kurdes, vous verrez obligatoirement, j'allais dire quasiment systématiquement, soit un homme, une femme, soit des femmes qui sont à la fois mises en avant, mais qui prennent aussi leurs propres responsabilités. Et c'est notamment très intéressant, hein, quand on va dans les manifestations kurdes, les grosses manifestations, hein, pas forcément celles rémoises, mais cette myriade, ce mélange des gens, des vieux, des jeunes, cette communauté qui est en marche, ce peuple qui quelque part démontre son existence, on va dire, plus de manière politique que de manière culturelle et populaire, et les j'allais dire les variétés, la diversité des gens qui sont là. Alors vous avez des vieilles avec des foulards, et puis vous avez des jeunes filles qui sont extrêmement attifées pour ils viennent pour la manif, quoi, etc., etc. Des jeunes, beaucoup de jeunes.
C'est vraiment un peuple en mouvement. Quand on regarde un peu exactement ce qui s'est passé en Iran, il se passe encore, mais apparemment, il y a un recul du mouvement. C'était contre le port du foulard.
Ben, c'était une Kurde qui... Enfin, c'est pas une Kurde qui a initié le mouvement, mais Machad, la figure qui a été popularisée, en tous les cas, qui est morte à l'issue de son interpellation par la police des mœurs, était une Kurde iranienne.
Était une Kurde iranienne. Et d'ailleurs, le slogan qui a été... qui est symbole de ce qui s'est passé en Iran... sur femme, liberté, et puis je...
Vie.
Oui, vie et liberté.
Yé, yin, yi.
Oui. Ce slogan vient du PKK.
Complètement.
Que les gens le reconnaissent, au moins, ça vient du PKK.
C'est amusant, en plus, de l'entendre répéter par, on va dire, une partie de la gauche française qui... le PKK, les Kurdes, alors là... C'est complètement, mais bon, enfin, ils ont l'habitude de répéter ce qu'on leur dit de répéter, donc ils le font sans trop réfléchir, mais ça, c'est pas inhabituel, quoi. Alors oui, cette manif, parlons plutôt des vivants. cette manif, elle était un peu moins importante que celle du 7 janvier, celle qu'il y avait un peu avant. Mais elle était encore très, 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 très nombreuse. On devait être au moins petite dizaine de milliers, quoi, hein, au départ de la gare du Nord pour aller place de la République, avec un dispositif de sécurité extrêmement important. Bon, relax, hein, mais quand même un gros, gros service d'ordre mixte qui le faisait correctement, donc ça allait, mais c'est toujours perturbant de se faire fouiller et d'ouvrir les sacs à l'entrée d'une manifestation. Mais
se justifiait. Hein.
Alors ouais, voilà, ils avaient au moins l'intelligence de l'expliquer et de le faire de manière vraiment très relaxe, en expliquant que déjà ils avaient les yeux.
Mais même sur Reims, quand il y a une manifestation kurde, et en particulier une rencontre entre Kurdes, etc., ça arrive assez souvent. Il y en aura une prochainement lorsqu'ils vont faire leur fête.
Le nouvel an, ouais, le Nuit Rose.
Voilà. Il y a toujours des risques qu'il y ait
des attaques.
Des attaques.
De nationalistes turcs.
D'ailleurs, il y a eu une grève de la faim de gens qui essayaient de se faire régulariser à Reims il y a quelques années, et ils avaient subi une agression de Turcs. Donc, c'est pas
du fantasme.
C'est pas du fantasme.
Et puis, en plus, évidemment, qu'ils avaient les yeux de la préfecture de police dans le dos, et qu'il n'était pas question qu'il y ait des incidents comme la fois dernière. Et alors, moi, ce que j'ai relevé, ce qui m'a paru le plus intéressant, c'est dans les discussions que j'ai pu avoir, notamment avec une partie de la, on va dire, la dernière génération, la quatrième génération militante, hein, les plus jeunes, qui sont les plus occidentalisés ou qui ont réussi à accéder à un niveau socio-culturel différent de ceux de leurs aînés, c'est que il commence à y avoir des frémissements. Et qu'il commence à y avoir des interrogations sur les stratégies et les lignes politiques. Alors, il est encore trop tôt pour voir ce que ça pourra donner, mais en tous les cas, le mouvement de la communauté, sa volonté de résistance, elle est toujours là, elle sera toujours là, ils l'ont toujours dit de toute façon, mais quelque part, la reprise du flambeau par la jeune génération va certainement déboucher sur quelque chose d'encore plus stimulant, d'encore plus politique, et d'encore plus présent, et on espère qu'on aura l'occasion d'en revenir à de nombreuses reprises là-dessus.
C'est que, en fait, vous êtes rentrés en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat, et pas le capitale.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, celui de Garrigue à Montpellier, Canassil à Toulouse, à local à Saint-Giron, et bien évidemment.